France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
La semaine dernière à Singapour, Emmanuel Macron a appelé à la reconnaissance d'un État palestinien, engageant un bras de fer presque personnel avec certains membres du gouvernement israélien. Une annonce forte qui n'a pour l'instant pas de conséquences juridiques, car depuis la dissolution, annoncée il y a un an presque jour pour jour, et alors que le parti présidentiel n'a plus de majorité à l'Assemblée, la politique étrangère et de défense semble rester seule aux pleines mains du président de la République. Dans la 5ème République, on appelle cela le domaine réservé. Une espèce d'évidence assez peu contestée que le président est seul ou presque décisionnaire des grandes questions de géopolitique et de stratégie. Mais alors, comment s'est construite cette évidence? Ce domaine réservé a-t-il un fondement constitutionnel? Pour en parler, un invité ce soir, Thibault Mullier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes constitutionnaliste, maître de conférences à Paris, Nanterre. Vous êtes en direct de l'université Côte d'Azur, où est organisé par les professeurs Vincent Martini et Pauline Turc un colloque international sur le thème « La pratique du pouvoir présidentiel sous la Ve République, enjeux institutionnels et évolution politique ». Merci Thibault Mullier d'être avec nous ce soir dans Question du soir.
La création d'un État palestinien, consécutive à la libération des otages, à la démilitarisation du Hamas, à la non-participation du Hamas dans celui-ci, à la réforme de l'autorité palestinienne, mais d'un État palestinien qui reconnaîtra Israël, son droit à vivre en sécurité, et la création d'une architecture de sécurité dans toute la région, sont le seul aboutissement souhaitable pour la sécurité de tous, et le seul qui garantira la paix dans la région. Et donc c'est pas simplement un devoir moral, mais une exigence politique et, je crois, aussi un vrai réalisme. Nous ne pouvons pas laisser la situation durer.
La voix du président de la République le 30 mai dernier, et nous célébrerons, si je puis dire, les un an de la dissolution dans quelques jours. Et justement, Thibault Mullier, est-ce que cette dissolution a eu un impact sur la façon dont le président gère les affaires de défense et les affaires internationales?
Alors, on aurait pu penser qu'il y aurait une inflexion ou un certain nombre de reconfigurations, en tout cas dans la mise en scène de la pratique du pouvoir présidentiel. Et en fait, très rapidement après la dissolution, d'abord avec par exemple une sortie de Marine Le Pen sur le titre honorifique que représenterait le titre de chef des armées dévolu au président, ou ensuite la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental par Emmanuel Macron en pleine période des affaires courantes, a montré finalement, la pratique présidentielle et la représentation que l'acteur lui-même se fait, mais que les observateurs aussi se font de ce domaine réservé, eh bien, n'a pas vraiment été bouleversée, voire pas du tout, par la dissolution. On avait un peu un indice quand même, c'est que même si on n'était pas en période de cohabitation, on ne l'est toujours pas, les trois périodes de cohabitation précédentes avaient déjà montré que sur ces questions de politique étrangère et de défense, eh bien le président gardait une prépondérance assez importante.
Est-ce que les relations franco-algériennes ne marquent pas en la matière un contre-exemple, si je puis dire? On voit bien que la ligne du président de la République n'est pas celle du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui fait largement entendre sa voix dans ce domaine.
Oui, c'est tout à fait intéressant, déjà pour une raison un peu juridique, si je puis dire, c'est que les sorties de Monsieur Retailleau, notamment sur l'appel à dénoncer les accords de 68, ne rentrent pas vraiment pleinement dans le champ des attributions du ministre de l'Intérieur. C'est plutôt le ministre en charge de l'Europe et des Affaires étrangères qu'on aurait dû entendre, mais qu'on a fini par entendre. Mais c'est vrai que ces sorties du ministre de l'Intérieur pouvaient être un début d'interprétation, aurait pu être il y a une remise en cause d'un quasi-monopole du président de la République sur ces questions-là. Et puis Emmanuel Macron, au mois de mars, je crois, dernier, fait un entretien avec auprès du Figaro et rappelle que chacun est dans ses compétences, et la question de la dénonciation ou de l'accord de 1968, c'est la compétence du président. Et donc, en invoquant une compétence qui figurerait dans la Constitution de 1958, eh bien, c'est une façon plutôt diplomatique de sa part de dire « le ministre de l'Intérieur ne peut pas décider, c'est bien le président de la République qui décide ».
Je voudrais que l'on plonge avec vous, Thibaut Mullet, dans cette notion de domaine réservé et vous faire entendre quatre voix illustres de la Ve République. Édith Cresson, Laurent Fabius, Jean-Pierre Raffarin, Valérie Giscard d'Estaing. Ils abordent tous les quatre cette notion-là.
C'est le rôle du Premier ministre que d'articuler la politique entre les différents ministres, de les mettre d'accord sur un certain nombre de thèmes, de leur déléguer ou de voir avec eux ce qu'ils veulent faire dans tel et tel secteur. Pour les grandes questions, c'est le président. Tout ce qui est la politique étrangère, de défense, la politique européenne dans laquelle Mitterrand s'était énormément investi, ça c'est lui complètement.
La politique étrangère, la politique de défense, il considérait que c'était son domaine.
Les fonctions étaient réparties de manière traditionnelle, fondée sur le domaine réservé de la fonction présidentielle.
Ce domaine réservé a été, je dirais, une sorte d'invention spontanée, parce que personne ne pouvait donner des ordres au général de Gaulle en matière militaire, c'est impossible, et personne ne pouvait également prendre l'initiative de politique étrangère forte sans avoir son accord.
Extrait du court documentaire intitulé « Comment le pouvoir est réparti avec le Premier ministre ». Alors Thibaut Mullet, c'est quoi cette notion de domaine réservé? Comment a-t-elle été forgée?
Alors l'expression du domaine réservé, c'est un malentendu qui a échappé à son créateur, pour parler comme Guy Carcassonne, et qui a formidablement bien réussi. C'est une formule utilisée par Jacques Chaban-Delmas à l'automne 59 dans un congrès du parti gaulliste, et le général de Gaulle infléchit sa position sur la question algérienne et va désormais plutôt défendre une autodétermination de l'Algérie et donc à terme la fin de l'Algérie française. Et une partie du parti politique, c'est le cas de le dire, du général de Gaulle est plutôt opposée. Alors pour un peu discipliner les membres du parti, en tout cas la partie plutôt favorable à l'Algérie française, Jacques Chaban-Delmas sort cette formule que les affaires étrangères, la défense et les affaires algériennes sont du domaine réservé du président de la République, qui n'a absolument aucun fondement constitutionnel, ne serait-ce que parce que le Premier ministre a des compétences en matière de défense et le gouvernement a des compétences en matière diplomatique, qui est vraiment utilisé à des fins tactiques, dans une lutte partisane qui est à l'œuvre sur la question de l'Algérie au tout début de la Ve République, qui sera infirmée par son propre auteur, qui fait une quasi-unanimité chez les spécialistes constitutionnalistes, notamment de l'inexistence juridique du domaine réservé, mais que vous entendez à peu près partout, dans la bouche de certains acteurs, on a entendu des témoignages, ou dans la bouche des observateurs, presse, et même dans une partie du monde académique, moins aujourd'hui, mais plutôt dans la première partie de la Ve République. C'est vraiment une expression qui a fait florès, mais qui ne repose pas sur une existence constitutionnelle. En revanche, mais il faut mettre des nuances, mais on y reviendra, c'est vrai que le président de la République, à partir du général de Gaulle, et sans discontinuité, même avec les périodes de cohabitation, est plutôt en pratique de l'apanage, et la pratique du pouvoir présidentiel est très importante à étudier, et en grande partie de l'apanage du président de la République.
Je reste un instant tout de même, Thibaut Mullet, sur le général de Gaulle. Quand on entre dans le détail des archives historiques, comment le général de Gaulle justifiait-il cette notion de domaine réservé? Est-ce qu'il fallait là aussi renforcer la légitimité du président de la République en lui donnant toutes les clés possibles? Ou bien il y avait une autre explication à cela, plus singulière, peut-être plus liée à son histoire personnelle?
Alors il y a des éléments liés à son histoire personnelle. C'est quelqu'un qui réfléchit quand même sur le rapport entre le pouvoir politique et le pouvoir militaire dans les années 20 et dans les années 30. Et au moment de la France libre, sa pensée évolue. D'abord, il considère que celui qui doit décider, c'est celui qui est responsable politiquement devant le Parlement. Donc plutôt l'idée de donner la compétence décisionnelle principale à un chef de gouvernement, on l'appellera comme ça. Et puis, sa vision des choses va évoluer. Il faut plutôt le mettre dans les mains d'un président qui est détaché des contingences partisanes. Et il y a quand même un traumatisme de 1940, de la défaite de France face à l'Allemagne nazie. Mmh. Cette idée que, aucun organe, et notamment le président Albert Lebrun, n'a pu empêcher la défaite l'armistice et puis la collaboration. Et donc ça, c'est vraiment une trajectoire personnelle. Il y a une forme traumatique. C'est aussi un militaire, il a marqué aussi dans la rédaction de certaines dispositions constitutionnelles de son expérience de militaire, notamment je pense au pouvoir exceptionnel de l'article 16. Mais dans la rédaction de la Constitution, il n'est pas tout seul à rédiger. Il est entouré notamment de Michel Debré, ou en tout cas de partisans issus parfois de la Troisième et de la Quatrième République, mais en tout cas de partisans du régime parlementaire, et donc le décideur doit être celui qui est responsable devant le Parlement. Donc on ne donne pas des compétences à un seul organe, on distribue des compétences plus ou moins déterminées au Premier ministre, au gouvernement et au président de la République. Mais dans les premières années de la Ve République, la distribution des compétences n'est pas très claire. En tout cas, elle n'est pas déterminée aussi clairement que ce qui est interprété aujourd'hui. Et on voit que Michel Debré, le premier ministre du général de Gaulle, est impliqué sur les questions de politique extérieure. Il s'échange des lettres, il se confirme ou s'infirme entre eux. Bref, les deux s'intéressent à ces questions-là. Et c'est à partir de l'enlisement de la question algérienne, où Michel Debré n'arrive pas à surmonter le problème, que la question quand même plutôt de défense, dirons-nous, va de plus en plus être concentrée par la présidence. Et ensuite, quand Michel Debré s'en va de Matignon et que c'est Georges Pompidou, plutôt désintéressé par ces questions-là, qui arrive à Matignon, là, on a un mouvement dans la pratique et aussi dans certaines règles plutôt de rang décrétal, enfin des règlements, on a une évolution qui ménage une place au président de la République dans les conseils de défense plus importantes, où carrément, on commence à institutionnaliser une pratique qu'on résumera imparfaitement sur le domaine réservé, mais qui consisterait à dire que le président de la République concentre cela. Et ensuite, Georges Pompidou lui-même, Valéry Giscard d'Estaing et surtout François Mitterrand vont confirmer cette pratique, même François Mitterrand qui était un grand critique. Et à cela ajouter qu'entre-temps, on avait attribué explicitement une compétence décisionnelle au président de la République en matière de feu nucléaire. Et finalement, le domaine réservé s'est institutionnalisé en même temps que la pratique présidentialiste s'ancrait dans la pratique du pouvoir du régime de la Ve République.
Vous le dites, Thibault Mullier, vous l'écrivez par ailleurs, la bascule véritable, c'est lorsque Georges Pompidou est nommé Premier ministre. C'est là que se cristallise dans la pratique du pouvoir, j'allais dire, l'accaparement par le président de la République de ce fameux domaine réservé. Quelle est la logique qui sous-tend à cette démarche diplomatique cette fois-ci? La France parle d'une seule voix, la France doit absolument parler d'une seule voix, notamment à travers celle du président de la République?
Alors, notamment à partir de la voix du président de la République, mais ça pourrait être un autre organe, c'est que la pratique et les interprétations qui ont été faites par les acteurs des règles et des représentations et des croyances a été celle-ci. Mais de manière générale, ça c'est pas propre à la France, mais il y a une lecture que dans les rapports internationaux, il faut plutôt une voix à l'unisson. C'est pour ça que dès des auteurs comme Jean-Jacques Rousseau, Alexis de Tocqueville, défendaient quand même une vision un peu plus aristocratique de la pratique du pouvoir quand il était question des rapports internationaux, et on pourrait ajouter les questions militaires, avec cette idée de parler à l'unisson, de parler d'une seule et même voix. Et on le voit dans la pratique des présidents concernés et des premiers ministres sous les trois périodes de cohabitation, c'est cette idée d'une voix, de parler à l'unisson. Alors des fois, il pouvait y avoir des luttes ou un partage plus assumé, notamment quand Jospin était Premier ministre, mais c'était l'idée que oui, il faut parler, c'est cette logique d'unité de l'État qui, dans les rapports internationaux, doit être confirmé. Et donc la lecture qui en est faite, c'est l'incarnation de la voix de l'État ne peut passer que par un organe, et sous la Ve République, c'est vraiment le président de la République qui a réussi à monopoliser, si je puis dire, en tout cas à minima à concentrer cela dans les 65 années passées de pratique du régime.
Quelle place tout de même aujourd'hui, Thibault Mulier, pour le Premier ministre dans ce domaine de la défense et des affaires étrangères? Je pense notamment à un exemple très concret. Vous nous disiez qu'il fallait s'intéresser de près à la pratique du pouvoir. Quand on regarde sociologiquement, avec un œil, j'allais dire, de sociologue administratif, comment se joue un conseil de défense? Par exemple, les deux figures sont présentes, et le président de la République et le Premier ministre. Et on sait bien que le Premier ministre peut jouer dans ces conseils un rôle relativement important.
Absolument. Et c'est merci de cette question, parce que je ne voudrais pas qu'on tombe dans l'écueil que produit un peu le domaine réservé, c'est ce mythe d'un président décideur solitaire. Il va trancher un certain nombre de choses. Il est un organe central sur ces questions-là, et ça se voit notamment en Conseil de sécurité et de défense nationale. Mais il est toujours entouré, notamment du Premier ministre, parce que on est dans un régime parlementaire où, il y a quand même une responsabilité politique du gouvernement. Le Premier ministre est constitutionnellement responsable de la défense nationale, et donc dans les dispositions législatives et réglementaires, il y a des éléments qui conforte, précise la place du Premier ministre, mais certes en partie plutôt comme un exécutant. Rien n'empêche qu'un rapport de force s'installe entre eux, mais qui n'a pas vocation la plupart du temps à être publicisé et à mettre en défaut le président de la République. Mais au-delà du Premier ministre, notamment dans les conseils de défense, ou même avant qu'un conseil de défense soit réuni, mais parce que le conseil de défense est un peu l'espace aussi, l'arène où on va formaliser une décision qui a été préparée en amont, c'est qu'il ne faut pas tomber dans l'écueil ou héroïser le décideur seul. Il y a un très bon livre qui est sorti de collègues politistes, de Grégory Dao, Florent Pouponneau et Johanna Siméan, sur l'entrée en guerre au Mali, et qui montre que les logiques bureaucratiques, les luttes entre les appareils ministériels, la haute hiérarchie militaire, les reconversions individuelles, les croyances, etc., jouent un rôle aussi dans la pratique, la prise de décision. Et finalement, par exemple, pour l'entrée en guerre au Mali, on constate que on propose plusieurs scénarios au président de la République. Certes, il va finir par trancher, mais il n'est pas de A à Z le constructeur de la décision. Bien évidemment, il est entouré, il y a des luttes internes beaucoup moins visibles, qui n'ont pas vocation à être publicisées. Et le Premier ministre, parce qu'il est responsable de la défense nationale, parce qu'il a un conseiller militaire à Matignon, parce que parfois il peut avoir un intérêt sur ces questions-là, parce qu'il opère tous les arbitrages en matière budgétaire, donc en matière de défense, il est un interlocuteur incontournable pour toutes les politiques publiques, et la politique diplomatique et celle de défense ne dérogent pas à la règle.
C'est ce que j'allais vous demander, Thibault Mulier. On a parlé d'à peu près tout le monde depuis le début de cet échange, sauf peut-être du ministre des Affaires étrangères. Quel est le rôle dans cette architecture que vous dessinez, que vous décrivez? Quel est le rôle du ministère des Affaires étrangères du Quai d'Orsay?
Alors, c'est par rapport à des républiques précédentes, je pense notamment à la 4e République, où c'est le ministère en charge de la défense et des affaires étrangères avait un poids assez important. Il est clair que là, sous la 5e République, ce sont plutôt des ministres qui ont vocation à mettre en œuvre la décision qui aura été prise, soit en coordination entre Matignon et l'Élysée, soit carrément par le président de la République. Ce qui fait que ça a un peu dévalorisé le rôle de ces ministres, mais en même temps, ça a modifié un peu leur rôle. C'est que ces ministres-là sont souvent un peu choisis, ou en tout cas, il y a presque un droit de veto dans la nomination de ces ministères-là en période de cohabitation, parce que c'est des interlocuteurs privilégiés du président de la République, à tel point que certains ministres en charge de la défense ou des affaires étrangères ne s'embêtent pas, si je puis dire, à informer Matignon et rendre directement compte au président de la République. Et là, on voit à quel point c'est plutôt un rôle, c'est très réducteur de le dire ainsi, mais un rôle d'exécutant, parce qu'ils peuvent être aussi des forces de proposition, il y a des luttes entre ces ministères, mais on voit que la captation du pouvoir de diriger les affaires extérieures de l'État par le président de la République est une telle réussite que ces ministères ont suivi la logique du présidentialisme et encore plus du mythe du domaine réservé. On le voit pour des relais aussi bureaucratiques très importants pour la mise en œuvre de la politique extérieure. Je pense notamment au secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale, qui a un office beaucoup moins spécialisé. Maintenant, c'est sur la sécurité nationale dans laquelle sont noyées toutes les politiques publiques, notamment la défense nationale. Et on voit que la relation avec le SGDSN, c'est son acronyme, avec l'Élysée, est très importante, alors que c'est juridiquement un organe qui dépend de Matignon.
La voix du professeur d'histoire contemporaine des relations internationales à la faculté des lettres de Sorbonne Université, Olivier Forcade. Il était l'invité de France Culture en 2019.
En France, sous la Ve République, politique extérieure et politique de défense nationale, liées entre elles, font de la Ve un régime plus présidentiel que parlementaire. On peut le regretter. Et on peut imaginer, voire souhaiter, avec des ONG, avec des citoyens, avec des responsables parlementaires ou politiques, que l'expression du contrôle parlementaire ou d'autres formes de contrôle puisse aller plus loin dans notre pays. Le domaine réservé sous la Ve République protège les décisions, les délibérations de bien des actes de politique extérieure et de défense nationale. Sur la question économique, si vous voulez protéger un brevet industriel sur la mise au point d'un système d'armes dans une compétition internationale qu'on vient de dire, vous pouvez utiliser le secret de la défense nationale. Si vous êtes sur des marchés d'exportation très compétitifs, vous allez protéger la propriété intellectuelle des matériels que vous exportez ou que vous voulez exporter.
On comprend, Thibault Mullier, en creux dans les propos d'Olivier Forcade, qu'il y a un acteur qui est tenu à distance, bien à distance de cette politique étrangère, c'est le Parlement. Le Parlement, on le tient le plus loin possible. En tout cas, la présidence agit de la sorte.
Absolument. Alors, il y a deux éléments. Il y a quand même une mise à l'écart qui se voit quelque peu dans la Constitution, mais de manière générale dans les représentations que la haute administration et l'élite politique française a vis-à-vis du Parlement, c'est-à-dire une sorte de méfiance et une vision aristocratique qui est assez ancienne, elle n'est pas propre à la Ve République. Mais il y a aussi, d'un autre côté, une sorte de self-restraint, si je puis dire, ou en tout cas de désintérêt de la part des parlementaires, parce qu'ils ne sont pas assez outillés, parce que ce n'est pas rentable sur le plan électoral, parce que c'est un coup d'entrée très important, les questions diplomatiques et militaires, je veux dire, pour se spécialiser. Et donc, ces deux effets-là, conjugués, eh bien, conduisent à un Parlement assez effacé, et encore davantage sous la Ve République, où la mise en œuvre, la conduite de la politique étrangère et de défense est très autonomisée du Parlement, et paradoxalement, le contrôle parlementaire est assez limité, mais en même temps, voire très faible, mais en même temps, il est très limité parce que le décideur en pratique, c'est le président de la République qui, constitutionnellement, n'est pas responsable des actes pris dans le cadre de l'exercice de son mandat. Et donc, le Parlement ne peut pas contrôler un organe sur lequel il n'a pas vocation à contrôler. Lui, il a vocation à contrôler l'action du gouvernement. Et ce qui fait que ça pose un problème de responsabilité qui est assez vertigineux, c'est que sous la Ve République, des décisions qui engagent autant la nation, soit sur le plan budgétaire, soit parce qu'on envoie des militaires potentiellement à la mort, bon, c'est une hypothèse de travail quand on est militaire, ou en tout cas on engage diplomatiquement un État dans son ensemble dans des rapports internationaux, le président de la République, à part remettre son mandat en jeu, n'a pas, ou une logique plébiscitaire, n'est pas responsable de ses actes. Et ça pose un certain nombre de difficultés d'un point de vue
et de
démocratique et pour le constitutionnaliste.
Et de problèmes démocratiques. Pardonnez-moi, je vous coupe parce que vous êtes à distance. Pourquoi défendez-vous, Thibault Mullier, en quelques mots, l'idée d'une extension du domaine réservé ?
On le voit, en fait, parce que les affaires étrangères et la défense sont souvent un point d'entrée pour justifier, notamment on s'appuie sur l'article 5 de la Constitution, pour justifier des extensions, c'est-à-dire le président s'intéresse à au-delà que ce champ du domaine réservé. Il y a une sorte d'omnicompétence dans la pratique et dans les représentations qu'ont les présidents de la République, c'est-à-dire s'estimer compétent, alors que rien ne le prévoit dans la Constitution, pour s'intéresser à des objets qui dépassent les affaires extérieures, avec une logique qui est décisionnel, qui est assez, et de pratique, qui est assez comparable. Je prends un exemple. Emmanuel Macron a dit il y a quelques mois ou années que l'éducation nationale, c'était du domaine du président, c'était un domaine régalien. Le régalien qui renvoie vraiment au droit régalien, à la souveraineté de l'État, etc. Et en particulier aux questions de guerre et paix. Et de manière générale, on l'a vu aussi dans la pratique des conseils de défense à partir de François Hollande et encore plus d'Emmanuel Macron, c'est que on noie les politiques publiques dans une grande politique nationale de sécurité nationale et on renomme un conseil de défense conseil de sécurité et de défense nationale, et le président ayant une place prépondérante dans la réunion, la composition, la convocation et la fixation de l'ordre du jour de ce conseil, eh bien il se saisit de problématiques qui s'éloignent de plus en plus de la diplomatie et de la défense, le sanitaire, l'énergétique, bref, la gestion de crise devient quelque chose où le président peut justifier de décider en dernier ressort, ce qui paraît vraiment problématique, encore une fois, du point de vue de la responsabilité politique.
Merci beaucoup, Thibault Mullier, de ces éclairages. Je rappelle que vous êtes constitutionnaliste et maître de conférence à Paris-Nanterre. Merci d'être venu ce soir dans Questions du soir.